Bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92. Vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. Et ce soir, on va parler tatami, kata, judogi, hippon. Pas nippon, napron ou potiron, mais hippon. Et donc, on va parler judo. Hajime, ça veut dire commencer en japonais. Car oui, c'est bien la semaine du Japon sur Aligre FM. Nous ferons ainsi un portrait de la championne Kokoriko, ou Kokoriko en japonais, de Clarisse Agbenyenou. Nous causerons donc de Wazahari et j'en passe. Et enfin, nous parlerons de pop culture. Et oui, comment le Japon nous influence. Pour cet épisode, je serai accompagné d'Elodie. Ça va, Elodie?
Ça va super.
Elodie dit Elodie-chan, Otabai, Nono Onako, la fille à la moto. Où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention.
Je crois.
Non, t'as bon, c'est ça, c'est Agbenyenou.
Voilà.
Ah, t'as bon.
Je me suis entraîné devant mon miroir.
Entraînement devant le miroir, bien sûr. Donc, Clarisse Agbenyenou. Et dans la troisième partie, on parlera d'un peu de pop culture japonaise. Alors, j'ai donc décidé de faire cet endroit en japonais pour vous, auditrices, auditeurs.
Waouh.
Préparez-vous, c'est un grand moment. Isashi poruchi desu. Ne. Futatabi naiku de anasukoto gatekite ureshi desu. Judoni, tsute, wanashi, shimasu, sushite, furatsu, bazai, aishite, matsu. Alors, je te laisse deviner ce que ça veut dire.
Bonjour et bienvenue.
On n'est pas loin.
Je suppose.
Ça veut dire, ça fait longtemps, je suis très heureux de prendre la parole. On va parler judo, vive la France, je vous aime. Voilà.
Ok. C'est
pas mal.
C'est vraiment beau comme langue. Enfin, ouais. Moi, je trouve ça très joli comme langue.
C'est assez fou, hein. Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct, bien sûr, de l'émission tous les vendredis de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin en rediffusion de 10h à 11h. Et si vous êtes coincé quelque part, en train de faire des courses ou préparer l'apéro, ce n'est pas grave, vous pouvez les trouver en replay sur la page de la radio. Tapez sur Google Aligre FM Podcast et cherchez l'émission Championne, bien sûr. Tu as écouté un peu les replays?
Bien sûr.
C'était
J'ai
bien.
Écouté ceux où je ne suis pas là, parce que j'aime pas me réécouter.
Eh bien, écoute... Tu as le droit. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut nous suivre, évidemment, sur Instagram, à Championne l'émission. On va prendre un petit instant. Bon, alors, Elodie, ça va bien?
Eh bien, écoute, ça va. Ça fait plaisir d'être là. Je n'étais pas là la semaine dernière, donc je suis contente de revenir.
Ouais, ça fait plaisir.
Ouais.
Alors, effectivement, de temps en temps, on va changer les intervenants pour varier le rythme.
Ça va?
Ça va très
c'est
bien,
dur,
j'ai un retour casque, j'ai jamais eu ça, c'est trop fort, ça me rend ouf.
C'est dur, hein,
de malade. Vous inquiétez pas, ça peut arriver, mais on va quand même faire l'émission. Alors, moi j'étais à Montpellier, figure-toi.
Oui, alors Montpellier.
Ah bah, très sympa, j'ai remarqué que les gens étaient vraiment très très détendus. On a fait à peu près 2 km sur une plage de nudistes, qui était un point de rendez-vous devant une cathédrale. Ils sont très à l'aise.
Je ne savais pas qu'il y a des plages nudistes.
Moi non plus. Je l'ai découvert sur place.
Moi non plus, visiblement.
Voilà. J'étais là et les gens. Il y avait plein de popotins, comme un grand garage à vélo.
Okay.
Tu pouvais garer des vélos, c'était très bien. Il y avait même le type, tu sais, l'eau jusqu'aux genoux, main sur les hanches,
regard vers l'horizon. Ah ouais, le cliché. Ouais. Ouais. Mmh. On le connaît tous, celui-là.
Voilà. Bah, ouais. Sauf que lui, le service
Jean-Mich.
3 pièces allait au vent.
Ouais, bah forcément.
Ouais. Et du coup, effectivement, c'était assez drôle parce que déjà, on ne le savait pas. L'eau était à 13 degrés et pourtant, très sympa. Hein.
Ah, c'est pas chaud, hein, 13 degrés. Enfin, après, moi, non. Je suis une grosse frileuse. Moi, si l'eau n'est pas à 30 degrés, il fait froid.
Ouais, j'imagine bien. Après, c'est la cathédrale de Maguelone et on a pris presque 2 km de plage nudiste comme ça. C'était un grand moment.
Non, en vrai, ça devait être... Bon, c'est marrant, après... Je sais pas, moi je le ferai pas. Je suis beaucoup trop pudique.
Je respecte les gens qui sont nudistes.
Mais, ouais, voilà, parce que moi vraiment je suis trop pudique. Enfin, même dans ma chambre où il y a personne, je suis seule, volet fermé, je suis pas à l'aise.
Ouais, je peux comprendre. J'avoue, c'est pas le meilleur truc quand même. Alors du coup, Elodie, le Sud, un avis?
Eh ben écoute, Montpellier, j'ai fait une brève halte, on va dire. Je me suis juste arrêtée avec des copines sur la route d'ailleurs. Et très sympa. Enfin, le peu que j'en ai vu, très sympa. plus, on est parti boire un verre en terrasse. Les gens, vraiment très, très cool. Ouais. Après, moi, je connais plus, c'est la côte Nice, Cagnes-sur-Mer, Fréjus, Monaco.
Ah, ouais, plutôt de ce côté-là.
Ouais, plutôt de ce côté-là. Bah, je connais du monde par là-bas.
Montpellier, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils n'ont pas d'accent.
Non, ouais. C'est vrai.
Et ils étaient vraiment très, très sympas.
J'étais presque déçue. Tu vois, j'adore les accents.
J'adorais l'accent du Sud.
Ah, exactement. Voilà.
Alors, du coup, nous, cette semaine, Sandrine s'est reposée avec les 462 messages qu'elle a reçus. Donc, Sandrine Donneau est partie faire un petit peu de dodo. Et donc, il y aura du courrier des lecteurs la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, ça revient. Donc, du coup, on repart sur le sport. On va parler judo. Mm-hmm. Littéralement, la voie de la souplesse.
Ah, d'accord.
C'est ça, la traduction. C'est un art martial et un sport de combat d'origine japonaise, fondé par Jigoro Kano en 1882. Bah, tu vois, je pensais que c'était plus vieux.
Oui, moi aussi.
Je pensais vraiment, art ancestral.
Ouais, exactement. Vraiment, je voyais vraiment ça genre au milieu des rizières.
La même.
Ouais, vraiment, j'imaginais ça comme ça.
Alors qu'en fait, pas du tout. C'est 1882, c'est pas si vieux que ça, pour le coup. Même pas encore 200 ans. Il se compose pour l'essentiel de techniques de projection, de contrôle au sol, d'étranglement et de clés. Mm-hmm. Ah, ouh, ah
la clé de bras.
Voilà. Et bien entendu, il y a tout un champ lexical comme Hajime, qui veut dire on commence. Ippon, c'est quand vous marquez un point. Mm. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Le tatami, tout ça, tout ça. Donc Jigoro Kano, qui souhaitait créer une discipline mêlant self-défense, sport et philosophie éducative. Contrairement au jiu-jitsu traditionnel dont il s'inspire, le judo insiste sur la maîtrise des techniques sans violence. Mm-hmm. Son principe fondateur, le Seryoku, voilà, Seryoku Zanyo, la meilleure utilisation de l'énergie, et le Jita Kyoji, entrée des prospérités mutuelles. Introduit en France dans les années 1930, donc c'est pas si vieux chez nous,
ouais,
en fait.
C'est vraiment pas vieux. Hein.
Introduit par Mikinosuke Kawaichi, le judo se structure réellement après la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à Maître Kawaichi, Jean de Hert et Maître Awazu, qui ont fortement contribué à la pédagogie et à l'organisation de la discipline dans l'Hexagone. Les pratiquants les judokas portent une tenue de coton renforcée appelée
Oui, c'est pas des...
Pas des kimonos.
C'est pas des kimonos. Non.
Ce sont des...
J'ai plus le nom en tête.
Des judogis.
Des judogis, c'est ça.
D'ailleurs, le pire, c'est que quand tu regardes des compètes, j'ai déjà entendu. Je savais pas ce que c'était, je savais pas de quoi ils parlaient.
Ouais. Je l'ai certainement déjà entendu, effectivement, sans savoir. Je me suis dit que c'était un terme technique.
Moi, c'est la même. Vas-y, judogi, il parle des judokas.
Ça doit être une prise, ça. Voilà.
Il lui a fait un judogi. Ouais, pareil. Alors que, pas du tout. Effectivement, le judogi est souvent appelé à tort kimono, qui est le nom générique de la tenue traditionnelle japonaise, le kimono. Le judogi est généralement blanc, mais pour faciliter la distinction pour les combattants, dans les compétitions, un judoka peut avoir le judogi bleu. On a l'habitude avec Terji Riner, qui est souvent en bleu, d'ailleurs.
Souvent en bleu, ouais.
Pour le coup. Et c'est à tous les niveaux de la compétition, on garde ces couleurs-là. Et parfois, quand ils sont tous les deux habillés en blanc ou en bleu, il y a une ceinture de couleurs, en fait. Il y en a un qui aura rouge, un qui aura blanche, pour qu'on les distingue un peu sur le tatami. Pour les compétitions à partir du niveau national, l'un des deux judokas doit revêtir un judogi bleu. Le judo se pratique pieds nus. Respect, montrer ses pieds.
Grave.
Il faut avoir une sacrée confiance pour montrer ses yeux, quand même, je trouve, pour moi. Donc le judo est un sport olympique depuis 1992 et les JO de Barcelone. Et bien sûr, la grande question, tu regardes un peu le judo? T'as déjà pratiqué?
Non, j'ai pas pratiqué, mais je regarde uniquement JO.
Ouais.
Ouais, tous les 4 ans, je regarde parce que j'aime bien. Je trouve ça hyper impressionnant.
Ouais, c'est ouf.
Puis Teddy Riner, il est impressionnant rien qu'à regarder.
C'est vrai qu'il a un corps.
Il est vraiment imposant. Mais alors vraiment au JO, tous les 4 ans. Sauf si je zappe sur une chaîne sportive et que ça passe. Mais sinon, c'est au JO, je regarde. J'aime beaucoup regarder.
Ouais, c'est pareil. C'est vraiment
je comprends rien, mais je regarde.
Bah, le but, c'est que celui qui est par terre,
quand
il tombe... Alors si, je sais, pour une fois. Il faut que ses deux épaules elles touchent le sol.
Ouais.
Et quand ses deux épaules elles touchent le sol, bah, il pompe, tu comptes un point. Ou alors, il faut qu'il abandonne parce qu'il se fait trop étrangler.
Voilà.
Et il fait...
Il y a soumission. Ouais.
Exactement. Bravo.
Exactement.
Et on peut même faire des wazahari.
Là, tu me perds.
Je sais. Ne me demandez pas, moi non plus. J'ai lu le terme, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Mais je crois que c'est la balayette, mais je ne suis pas sûr.
Ah, peut-être, oui.
Donc, dans les règlements de la compétition, bien sûr, les règles du judo sont fixées par la Fédération internationale de judo, la FIJ, International Federation of Judo.
Yeah.
Voilà, merci, on est toujours bilingue. Ces règles évoluent et sont mises en application au sein des différents pays où le sport est pratiqué par les fédérations nationales de judo, comme la Fédération française de judo, mm-hmm. en anglais Fédération française de judo.
De judo.
Très important. En compétition, les combattants sont séparés par catégorie d'âge et de poids.
Oui.
Alors, je savais qu'il y avait le poids, mais je ne savais pas l'âge, j'ai regardé un peu, c'est vrai qu'il y a, ça peut être. Mais par contre, en JO, c'est vraiment le poids.
Ouais, c'est en ouais, JO, c'est le poids. Mais je ne savais pas qu'effectivement, petit, enfin, pour des compétitions moins importantes, il y avait l'âge aussi, je ne savais pas.
Ouais.
Pour moi, c'était poids, quoi. Après, tous les enfants de 6-8 ans ont le même poids à peu près. Enfin, moi, je voyais ça comme ça, tu vois.
Si tu prends un 16 contre un 11... 16 ans contre 11 ans.
Oui, mais ils n'ont pas le même poids, justement.
Bah justement, si l'enfant de 11 ans, déjà, il a le poids de l'enfant de 16 ans.
Ouais, bah si, si c'est à poids égal, je trouve ça, tu vois.
C'est faire.
C'est faire, voilà. Merci, c'est le mot que je cherchais.
C'est faire. Donc, il y a tout le corps arbitral, évidemment, qui est très respecté. La surface de combat, qu'on appelle le tatami, mesure de 4 à 10 mètres de côté. Une distance de sécurité autour de la surface est prévue. Tu sais, c'est les 50 cm de couleur, généralement, c'est un carré de couleur. Le combat se lance, évidemment, le vainqueur. Le but dans un combat de judo est de rechercher le lippon, accordant une victoire immédiate à la suite d'une technique efficace. En judo, debout, cela se traduit selon 4 critères. Chute largement sur le dos avec force, vitesse, contrôle, donc les fameuses deux épaules. C'est pour ça que quand ils, ils font des prises, ils essayent de se retourner, de tomber sur une seule épaule.
Ouais, pour avoir, pour entre guillemets, perdre qu'un point et pas perdre le combat.
Exactement.
Ouais.
Lorsque le même combattant marque 2 wazahari, accordé, lorsque l'un des critères du hippon est manquant, voilà, une seule épaule, wazahari.
Mmh, c'est donc ça.
Oui. Merci mes notes.
Heureusement que t'as bossé, hein.
Ouais, j'en vois comme d'hab, là, je dois avoir 28 pages. Le hippon peut également être accordé à la suite d'un abandon de l'adversaire, à la suite d'une strangulation ou luxation efficace, de la suite d'une immobilisation maintenue pendant plus de 20 secondes. C'est 20 secondes. C'est que 20 secondes, tu l'as mis par terre et il ne peut plus bouger, tu sais. C'est pour ça que des fois, ils font des coups de hanche, pour essayer de relever l'adversaire.
Essayer de projeter le poids soit du haut du corps, soit du bas du corps pour aider pour se dégager. Ouais.
C'est ça. Donc, attention, combien y a-t-il de catégories pour les hommes en poids? Vous pouvez jouer chez vous.
Je dirais 4.
Un peu plus.
5.
7.
7. 7, c'est ce que j'ai dit, 7.
T'as dit 7. Donc ça, il y a les moins de 60 kilos, les moins de 66 kilos, les moins de 73, moins de 80, moins de 90, moins de 100 kilos, et les plus de 100 kilos, là où Teddy Riner joue, c'est plus de 100 kilos, là où David Douillet jouait,
ouais,
plus de 100
également.
Kilos. Pour les filles, combien de catégories? Attention, il y a un piège.
Pareil.
Bravo!
Oui!
Voilà, excellent! Évidemment, 7 également. On commence à moins de 48 kilos. Moins de 52, moins de 57, moins de 63. Là où il y a notre chère Clarisse.
Notre chère Clarisse, oui.
Exactement. Moins de 70, moins de 78 et plus de 78 kilos. Évidemment, il y a un concours par équipe. Et en plus, il est mixte.
Oui.
Et au JO 2024, nous avons gagné.
La médaille d'or.
La médaille d'or en mixte, évidemment.
Fait.
Et il y avait Teddy Riner, Clarisse. Agbenienou, il y avait aussi Shirin Bouki, Lamandine Bouchard et j'en oublie parce qu'ils étaient 14.
Ouais, c'est des grosses, grosses équipes.
J'ai jamais vu ça, 14. Les Avengers, quoi.
Bah ouais.
C'était fou.
Après, je sais pas si. Non, enfin, ils ont pas, les 14, ils ont pas combattu lors du mixte. Je crois que s'ils étaient 4 ou 5.
Ouais, ils sont pas autant.
Mais en tout, à se présenter au JO de judo avec toutes les catégories, hommes, femmes, etc., effectivement, ils sont 14. C'est beaucoup.
Du coup, on a fait très bien parce qu'on a gagné 10 médailles au JO 2024 sur le judo, donc on est très fort. Devant le Japon qui en a 8 et la Corée du Sud 5, c'est pour dire le niveau de la France. Donc on a eu quand même, si je ne dis pas de bêtises, 6 bronzes en individuel et 2 médailles d'argent et 2 en or, une pour Teddy Riner, une pour l'équipe, tout simplement. En France, évidemment, c'est un sport très populaire. Combien de licenciés? La question à 10 euros.
Je dirais 100 000.
En plus.
Ah ouais?
Ah ouais, bien plus.
Beaucoup, 200 000, genre?
567 000 pratiquants
pour la saison. Demi-million de pratiquants.
Pour la saison 2024-2025, parce qu'il y a eu effectivement les JO qui sont passés par là.
Oui.
Donc ça a augmenté. Pourcentage de femmes?
Je pense que ça. Ça doit être à peu près mix. Non, il y a un peu plus d'hommes, mais je pense pas qu'il y ait une grosse différence, peut-être 30%, quelque chose comme ça.
Bien, 34%, c'est une bonne réponse. Bravo, on se rapproche.
Je m'améliore.
Voilà. 34%, 5300 clubs répartis sur tout le territoire, c'est quand même pas mal. Pour pratiquer le judo, il faut une licence de l'adhésion et des cours. C'est surtout les cours qui sont chers, généralement. Mais en gros, à l'année, vous en tirez pour à peu près 250 € pour 2 à 3 heures par semaine. Ce qui vous prend le plus cher, c'est vraiment les cours de judo. Pour la rémunération, lors des compétitions internationales, les primes sont équivalentes pour les hommes et pour les femmes. Ce n'est pas dans tous les sports, mais c'est le cas. Par exemple, une médaille d'or au championnat du monde, c'est 25 000 €. Une médaille d'argent, 15 000. Une médaille de bronze, 8 000. Pareil pour les Jeux Olympiques, les cash prize, c'est les mêmes pour les hommes et pour les femmes.
Okay.
La seule différence de rémunération, c'est encore une fois le sponsoring, puisque les contrats publicitaires, visibilité médiatique, évidemment, vont déséquilibrer le revenu. Mais sur la compète en elle-même, on est bon. Pour les épreuves majeures, on a évidemment les JO, avec les 7 catégories de poids pour hommes et pour femmes, mais vous avez aussi le par équipe, on a les championnats du monde, les championnats d'Europe, le Grand Slam, qui était avant un truc qui se faisait à Bercy et qui maintenant est vraiment un truc énorme. Vous avez des Grands Prix et vous avez des Masters, et vous avez effectivement énormément de compétitions de judo à travers l'année. Donc ça, c'est cool. Du coup, on va bientôt arriver sur la pause musicale, mais le judo... Ah, elle est quand même balèze, un peu comme l'escrime, on va se mentir.
Ouais, bah, ouais, balèze. Enfin, franchement, il faut le faire.
10 médailles au JO devant les Japonais et les Coréens, c'est
en un sachant délire. Que, ouais, ça a été pendant des décennies les maîtres de la discipline, les Asiatiques. Surtout Japonais, Coréens. Ouais. Enfin, ils ont vraiment mené le truc pendant des dizaines d'années. Et nous, entre guillemets, pauvres petits Français, loin de cette culture, loin de tout ça, on les bat et on les mène, et largement en plus pour certains. Donc
ouais, et on les a gagnés en finale en mixte, et Teddy Riner.
Ouais.
Et bien, pour vous rappeler un peu le Japon, ce que le Japon nous a offert, musique, son numéro 1, Maestro.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'est insupportable.
Et rebonjour à nouveau, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. Mais aujourd'hui, je suis Cad Senpai, parce que je suis le plus vieux autour de cette table.
Oui.
Nous sommes d'accord, merci. Et nous sommes toujours avec Elodie Chan, dit Sakutsu Socha, la joueuse de saxophone. Nous sommes toujours accompagnés par la régie, toujours au top, merci beaucoup. On vient d'écouter évidemment un grand morceau de musique. Est-ce que tu as deviné ce que c'était? Ils disent quand même, ils disent 15 000 fois le nom.
Non mais oui, j'ai reconnu, mais je regardais pas.
Tu regardais pas quoi? Tu regardais pas Cat Size?
Non.
Mais non.
Non, je te jure.
Eh bien, en même temps, c'est la première diffusion, 1986.
Ah ben, j'étais pas née. Hein.
Générique d'Isabelle Guillard. Donc évidemment, t'étais peut-être trop little.
Bah ouais.
Mais ça parle à toute la génération 80, évidemment.
Oui, après, je connais, j'ai jamais regardé, mais évidemment, je connais.
T'as regardé le remake français qu'ils ont fait sur TF1?
Non.
Je sais pas comment on me dit ça. Non.
Non, non.
Non, même pas?
Non, non, même pas, non.
Même pas une attirance pour ce truc, rien du tout.
Non, non, ouais, ça m'a pas... Après, moi, faut dire la vérité, je suis pas très animé, hein, manga, tout
ah,
ça.
Ah, voilà, va pas droit au but, dis-le.
Regardé, les seuls que j'ai regardés, Pokémon,
ouais,
parce que quand même, la base.
La base.
Olivier Tom, parce
oui,
que,
la base.
Voilà, faut pas déconner non plus.
Ça
et Détective Conan.
Ok, ouais, donc t'as regardé du 80 et du 90. Ok, ça va, ça va. Tu m'as cité trois.
Parce que ça passait sur France 3, un truc comme ça.
Tu m'as cité trois monuments, pour moi ça va très bien.
Voilà, c'est les seuls.
Pour les anecdotes sur le judo, j'en avais une.
Oui, pardon.
Ah, bah oui, parce que quand même, il ne fallait pas déconner. Alors, il faut savoir que quand le judo a été introduit en Angleterre et plus tard en 1930 en France, c'est pour nous Européens qu'ils ont créé les ceintures.
Ah ouais?
Ouais. À la base, les ceintures, ils ont été créées pour qu'il y ait un peu ce côté, comment dirais-je, plus simple pour que les Européens comprennent qu'il y a des danes. Donc ça va jusqu'à la 12e dan, évidemment. Et quand tu es petit, ça va de la ceinture blanche à la ceinture marron, les adultes de la blanche à la marron, et les maîtres supérieurs avec les âges. Par exemple, tu ne peux pas passer la 6e ou 7e dan tant que tu n'as pas de 33 ans. C'est okay. Vraiment un grade spécifique. C'est ceinture noire. De la première à la huitième, après c'est ceinture blanc-rouge, rouge, et aujourd'hui, actuellement, on n'a qu'un dixième dan. Le grade du douzième existe pour le fondateur du judo, et sa couleur de ceinture est blanche, pour dire que même au plus haut niveau, tu as toujours quelque chose à apprendre.
C'est beau.
C'est japonais. Voilà. Je trouve ça génial, en fait, clairement. Alors, du coup, on va parler de la magnifique Clarisse, de son vrai nom. Bogdana Agbenienou, dit le bulldozer. Elle est née le 25 octobre 1992 à Rennes, toujours en activité. C'est une judokate française, mais surtout l'une des plus titrées de l'histoire. Et bien sûr, on va détailler. Alors, est-ce que tu connaissais un peu Clarisse, toi?
Alors, je la connaissais de visage, parce que je l'avais vue au JO.
Ah bien.
Mais je connaissais même pas son nom, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et j'ai pas retenu.
Il y en a beaucoup, les 14.
Ouais, il y en a vraiment beaucoup, j'ai pas retenu. Mais je la connaissais de visage, je l'ai vue, je l'ai vue combattre, mais je connaissais pas son palmarès. Je savais pas à quel point elle...
Ouais, c'est pointu, hein.
Ouais.
Alors, le judo fait partie des sports de combat féminins les plus populaires au monde. Les compétitions de judo féminin ont vu le jour en France dans les années 70. La version féminine de ces disciplines fut introduite aux Jeux Olympiques de 1992. Depuis, ce sport bénéficie d'un soutien solide de la part des institutions et des clubs, ainsi que d'initiatives de promotion et d'égalité des sexes. De grandes championnes de judo françaises ont contribué à la renommée de ce sport. Aujourd'hui, la France est l'une des nations les plus performantes en judo féminin et masculin. Et c'est le cas, effectivement, on est très très fort sur le sujet, comme tu as dit, depuis les années 80-90, on roule un peu sur tout le monde, même ouais. Sur les créateurs du judo.
C'est un petit peu David Douillet qui a mis la lumière en France ouais. Sur ce sport.
En étant en plus de 100 kilos et...
Ouais, et en gagnant énormément de choses également.
D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois qu'il a battu un grand maître de judo, ce qui s'est passé, c'est que le maître de judo a arrêté sa carrière. Véridique.
Ouais.
Il s'est excusé, il a fait une conférence de presse, il s'est excusé auprès du Japon, du peuple japonais, et il a arrêté sa carrière.
C'est dingue.
Alors qu'un Européen, il aurait, tu vois...
Oui, il serait revenu l'année suivante, quoi.
Un McGregor, un McTyson, tu vois.
Ouais, mais...
On revient, tu vois.
Il aurait dit, c'est pas grave, la prochaine fois, je l'aurai, quoi.
Ouais, alors que là, pas du tout. Donc, elle a grandi à Gennevilliers, dit Gégène Lavillaine, le 92 en force. Elle est d'origine togolaise, elle fait 1m63 pour 63 kilos. Elle a commencé... au club d'Anières, Asnières Martial. Qu'est-ce que je raconte, moi? Les arts martiaux d'Asnières, AMA, pour le coup. Hop. Et ça, c'est plutôt pas mal. Son père, Victor Abgenienou, était un scientifique togolais. Clarisse a trois frères, dont un jumeau, je savais même pas. Elle a acquis la nationalité française le 17 octobre 2000 par effet collectif attaché à la naturalisation de son papa. Elle rentre au club de l'AMA Arts Martiaux d'Asnières à l'âge de 9 ans et depuis elle fait du judo depuis qu'elle a 9 ans. Et dans la vraie vie, j'ai vérifié, elle l'est toujours. Est-ce que tu sais son, ouais, c'est quoi son vrai métier?
Elle est gendarme.
Elle est adjudant gendarme.
Ouais.
C'est abusé.
J'ai pas envie de la croiser.
Moi non plus. Elle t'attrape, elle te casse en deux, la jeune fille.
Comment ça, refus d'obtempérer?
Comment ça, vous voulez faire de la rébellion, monsieur?
Il n'y a pas de refus d'obtempérer.
Ah ouais. Donc vraiment, grande championne. Elle a un palmarès de fou. Il faut savoir qu'elle est née extrême prématurée. Elle a failli mourir. D'une situation de vie, elle en a fait un engagement. Le 25 octobre 1992 à Rennes, l'année de sa naissance, bien sûr. Et elle est née extrêmement prématurée. Maturée. Je suis fort ou pas? Elle a
été maturée. Maturée.
Oh, ça va, maturée, prématurée.
Il manquait juste un petit bout.
Est-ce qu'on n'y est pas, là, franchement?
On a voilà. Compris, on a compris.
À 7 mois de grossesse, avec son frère jumeau Aurélien, je cite Clarisse, « Je ne respirais pas », raconte-t-elle au Monde en 2019. Ils m'ont réanimé, ils ont diagnostiqué une malformation du rein. Il a fallu m'opérer. Je connais, j'en ai qu'un, j'ai même délire. Pour le coup, mais j'ai pas le même palmarès. Sans tomber dans le coma, je suis resté plusieurs jours, je me suis réveillé avec l'envie de vivre. Cet épisode de sa vie a été pour elle déterminant. Je suis convaincu qu'effectivement, cette soif d'aller toujours de l'avant et de ne rien lâcher, ce refus de croire que toutes les choses sont possibles, je les ai tirées de là. Déjà, juste ça, c'est un truc de fou.
C'est dingue. Moi, de ouf.
Ouais. De prendre ça et de se dire à 9 ans, je vais faire du judo, je lâche pas le morceau. Et effectivement, elle est adjudante hors des tatamis et des dojos. Clarisse Agbenienou est aussi adjudante dans la gendarmerie nationale. Tout comme elle, nombreux sont les sportifs et sportifs français à être engagés dans différents corps d'armée. La judokate fait ainsi partie de ce qui s'appelle l'armée des champions. Je l'ignorais avant de voir cette info. Ouais. Entrement nommé le bataillon de Joinville du Centre National des Sports de la Défense, rattaché au ministère de l'Intérieur et qui regroupe, d'après toi, combien d'athlètes?
Oh, je dirais... il doit y en avoir une centaine, je pense, quand même.
Bien joué, 200.
Ouais.
200 athlètes ouais, qui sont même. À la fois champions olympiques, champions nationaux,
champions
trucs de
du
fou,
monde ou autre.
Mais en même temps, travaillent pour l'État et ont un boulot, quoi. Ce qui est... j'aurais pas cru, tu vois. Autant Teddy Riner, il a plus besoin de travailler parce qu'il y a les sponsors derrière et il est méga ultra champion. Mm-hmm. Autant pour un palmarès comme Clarisse, j'aurais cru vraiment qu'elle faisait ça à plein temps et stop, tu vois.
Après, je pense qu'ils doivent avoir des horaires aménagés ou des choses comme ça.
Oui, quand même. Plus c'est l'État français, tu représentes la France, bien sûr, ils vont te donner, tu vois.
Bien sûr.
Mais comme on avait parlé la dernière fois de Souria Bonali et du racisme, je tiens quand même à repréciser qu'elle est d'origine togolaise, naturalisée française, c'est la France, elle nous appartient. Ah, voilà, les racistes, chè. Du coup, le kimono polémique. Alors, début 2023, je ne sais pas si tu l'avais cette polémique, elle entre en conflit avec sa fédération pour cause sponsorisée par Mizuno, qui est une marque japonaise d'ailleurs de sport, comme ASICS. Elle refuse de porter le kimono de l'équipe de France qui provient de la marque Adidas, comme pouvait le faire le judoka Teddy Riner avec un kimono de sa propre marque Flyheart. Donc en fait, la polémique, elle est assez folle. C'est qu'elle dit, bah, comme Teddy, il porte son propre kimono, moi j'ai un sponsor, vas-y, je fais la même.
Bah.
Et elle, par contre, on lui a dit non. Toi là, non.
Adidas.
Adidas, c'est fou ça. Donc du coup, elle s'est embrouillée et elle a dit elle-même « Le mal est fait, je n'ai plus confiance dans les dirigeants de la Fédération Française de Judo. » Pour ce qui est de son palmarès, tu l'as j'imagine ou tu veux que je le cite?
Oui, je l'ai, oh, bien
vas-y,
sûr.
Envoie
bien
le palmarès, envoie le palmarès de la dame. Ouais.
Alors on a...
Alors qu'est-ce qu'on a au menu?
On a 5 médailles des OJO, 3 ouais. D'or, 1 argent, 1 bronze.
Yes.
On a, pour les championnats du monde, 6 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze.
Bravo.
Ça, c'est en solo. Après, il y a les championnats du monde en équipe. Et là, on a 2 médailles d'or supplémentaires, 1 argent et 2 bronzes. Déjà, rien que là, je suis fatiguée
déjà,
pour
elle. C'est trop.
C'est trop.
Moi, j'aurais pris ma retraite, personnellement.
Exactement. Après, il y a les championnats d'Europe, 5 médailles d'or, 1 argent, 1 bronze.
C'est ça.
Il y a les Jeux européens où elle a fait 1 médaille d'or, 1 médaille de bronze et pas d'argent. Et pour les championnats de France, elle a 3 médailles d'or.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est l'armoire à trophées.
C'est pas mal.
Donc, comme on vous a dit, c'est l'un des plus beaux palmarès du judo français.
Ouais.
clairement.
Mais que ce soit français et même, oui, même international d'ailleurs. En féminin, elle a un des plus beaux palmarès
au monde.
Au monde, exactement.
Et de l'histoire de son sport. Donc, ouais, clairement, c'est une grande dame, rien à dire. Il faut savoir que sur les adversaires marquants qu'elle a eu, elle a affronté la Slovène Tina Trenjak, désolé pour la prononciation, sa grande rivale qui l'a bat en finale des JO de Rio en 2016, ouais, c'est là où elle a l'argent, mais revanche elle, en 2021
ouais,
à Tokyo.
Ouais.
Pa, pa, pa.
Elle prend sa revanche, elle là-bas.
Ça c'est fou, elle a quand même des belles adversaires aussi pour ouais, le coup. Après il faut dire que moi ce qui m'a plus marqué c'est la maternité.
Ouais. Parce j'ai vu ça, cette anecdote, je ne savais pas.
Ça, c'est grand.
Ouais.
Alors, Clarisse est devenue maman d'une petite fille en juin 2022. Donc, elle quitte les tatamis, parce qu'elle n'allait pas accoucher pendant, pendant une épreuve.
Pendant un hippon.
Hippon.
Non, ça aurait été compliqué.
Fut, vous déloyale, elle vous a frappé avec son bébé.
Pousse, je perds les os.
Pousse, pousse. Donc,
non, c'est pas possible.
Elle se retire de la compétition pendant pratiquement un an. Et en 2023, elle fait un retour triomphal au Grand Slam de Paris et reconquiert une médaille mondiale. Preuve que la maternité et performance de haut niveau sont tout à fait compatibles. C'était en 2023 et en 2024, elle prend sa médaille de bronze individuelle et elle prend sa médaille d'or par équipe parce qu'elle a participé justement aux épreuves mixtes. Ça, juste ça.
11 mois après son accouchement. Même pas un an. 11 mois chapeau, après, bam, elle est revenue au top.
Chapeau.
Au max.
Chapeau
dingue,
la dame.
Ah oui, chapeau. Plus que chapeau même.
C'est dingue. Retour direct international. Elle rigole même pas.
Entre guillemets, comme si de rien n'était, quoi.
C'est ça. Ensuite, elle a des engagements personnels que j'aime beaucoup. Donc, elle est engagée pour la reconnaissance des femmes dans le sport, l'égalité des chances, la diversité et la lutte contre les discriminations raciales. Ça, c'est top, je kiffe. Le droit à la maternité dans le sport, évidemment.
Évidemment.
Maintenant, elle est une belle figure de proue de ça. Comme quoi, quand t'es une fille, tu peux accoucher et reprendre ton sport, il n'y a pas de galère.
Ouais.
On n'est pas sur une date de prescription comme une vulgaire conserve, hein, tout simplement. Déclaration marquante de la dame. Être une femme noire, forte, mère et championne, ce n'est pas une contradiction, c'est une richesse.
C'est
encore
bien
une
dit.
Fois, chez les fachos.
C'est très bien dit.
Je veux être une inspiration pour toutes les petites filles. Ça, c'est très sympa aussi, parce qu'il y en a besoin, pour le coup.
On a eu un petit
Oui, on a eu un truc qui est sorti de nulle part. Avec un...
C'est pas grave, on continue.
On a eu un jingle, mais c'est pas grave. Si, est-ce que je n'ai pas compris. C'est pas grave, on est détendu.
Les aléas du direct.
Bah, Montpellier, à la plage nudiste. On est bon.
Exactement. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Les aléas du direct. J'ai pu enfin.
On est bon. Alors du coup, autre chose intéressante, évidemment, elle a des récompenses. Donc si je ne dis pas de bêtises, hop là, j'y vais. Donc, elle est, comme d'habitude, chevalier de la Légion d'honneur depuis le 8 septembre 2021, officier de l'Ordre national du mérite en 2024, et elle est officier de l'Ordre du Mono en 2021, ce qui veut dire qu'elle est chevalier de la Légion d'honneur, mais au Togo.
Au Togo, ouais, c'est la plus haute distinction du Togo.
Ça, c'est dingue. Trouve ça méga génial.
Ouais.
Pour le coup, grande dame, rien à dire, son palmarès est fou. Il faut savoir qu'actuellement, elle est sixième dan. Donc, elle a la fameuse ceinture un peu blanche et rouge. Et elle fait aussi du jiu-jitsu brésilien, qui est un dérivé du judo, et qui est le judo brésilien, mais on l'appelle le jiu-jitsu brésilien. Elle est ceinture violette, donc elle a vraiment un grade, un level, rien à dire.
À croire que certains s'ennuient dans leur discipline et veulent exceller dans toutes les disciplines.
Exactement. Donc là, on va repartir sur un morceau, retenez en tête, Cat Size, morceau numéro 2, Vive la France. What you say? Say what love is. I need you sailing in your love. I need you sailing in your feeling. You need me sailing with my time. You need me sailing with my life. My genie, I would love to dream. You're my dream and my pillow. Signal に映る昨日. Every day.いつも誰かを探して今日まで今日から生まれ変わるハートの TV 自宅のためらいはデリンジャー貢献してるね誰でも本当の愛には不慣れな獣
get close, what? Yeah. Close to who? Maybe today, not tomorrow. You know, I never had this feeling before. Such a funny feeling.
Alors bonjour à nouveau auditeurs et auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis Kat Senpai, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission Championne, ou Championne.
Championne.
Championne. Oui. Aujourd'hui nous allons parler pop culture dans cette troisième partie, puisque nous allons parler judo, nous allons parler Clarisse Agbenienou, nous sommes sur la semaine du Japon, et nous avons écouté Tone Mariko pour un morceau qui s'appelle Derringer de 1984, est-ce que vous avez entendu, c'est l'un des vrais génériques de Cat Size. Mm. Ça n'a rien à voir avec Cat Size.
Non, rien à voir.
Mais évidemment, beaucoup plus de patates, beaucoup plus de musicalité, il y a quelque chose. Voilà. Alors pour m'accompagner, j'ai toujours Elodie avec moi. Ça va Elodie?
Bah ça va, écoute.
Malgré les aléas du direct.
Malgré les aléas du direct.
Alors pour vous compreniez, en fait, depuis le début de l'émission, on a un double écho dans le casque qui nous perturbe de ouf.
C'est pour ça qu'on a du mal à articuler.
Mais vous avez vu, si je ne l'avais pas dit, vous ne le sauriez pas.
Oui, parce qu'on reste professionnel.
Nous restons professionnels, nous allons jusqu'au bout de notre contrat, bien sûr.
C'est notre contrat.
Alors, notre contrat. C'est notre contrat. Alors, bien sûr, on remercie la régie qui est en place. Il n'y a pas de souci. Là, on vient d'écouter notre morceau. Pas de problème. Maintenant, en troisième partie, on va parler plutôt pop culture, influence du Japon, Asie, au sens large, en fait, qui ont influencé notre enfance et celle même d'autres personnes. Et avec une liste non exhaustive, attention, je vais citer plein de choses d'abord, et après on va revenir chaque fois, et tu pourras donner ton avis et tout. Donc, jeux vidéo, Mario, Nintendo, Sony PlayStation, les mangas, les animés, les musiques d'animés, One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Berserk, le cinéma avec le karaté, les samouraïs, Karate Kid, Ninja Warrior, bête de film, Jean-Claude Van Damme. Parce que, t'as déjà écouté une bande-annonce avec Jean-Claude Van Damme?
Oui, oui, oui. Bah
Jean-Claude
oui.
Van Damme, oui. C'est exceptionnel. Chuck Norris, Bruce Lee, Jackie Chan, les sports de combat, le judo, l'aïkido, les motos, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, ouais, je parle à la vitesse de la lumière, le drift dans les montagnes avec Initial D ou Fast and Furious Tokyo Drift, le cosplay, la Jap Expo, mais aussi en vrac Toshiba, Uniqlo, Asics, Shiseido, je connaissais pas, je savais pas que c'était japonais.
Ouais, si, bah, ouais, si je connais. Ouais.
Rakuten, je savais pas non plus.
Ah, Rakuten, je savais pas.
Canon, JVC, qui veut dire littéralement Japan Victor Company.
Ok.
Je savais pas non plus.
Bah non.
Je l'apprends. Et c'est sans compter les sushis, les ramen, le sumo, les yakuza, Miyazaki, Kitano. Bref, pays de fous. On a trop de connexions avec eux. Vive les Nakama. Donc je vais envoyer des trucs. Tu vas me dire effectivement à quoi ça te fait penser. Vous aussi, vous pouvez jouer chez vous. Auditrice, auditeur, on part en voyage temporel. Marty, fais chauffer la DeLorean. Pardon. Marty-san, Doroiano Hajimeru.
Stylé.
T'as vu ? Alors, l'invasion culturelle a commencé par le Club Dorothée, diffusé de 87 à 97. Déjà, première question, est-ce que tu regardais le Club Dorothée ?
De 87 à 97 ? Ouais, je suis en 94.
Et alors ?
J'ai pas regardé.
T'as pas regardé ?
Mais non.
Oh ah, t'aurais non. pu.
T'aurais dû.
Voilà.
Non, j'ai pas regardé, j'avoue.
Mais tu as bien regardé tous les dessins animés qui ont
gagné oui.
ça.
Oui, oui,
Dragon
ça,
Ball,
oui. Ouais, tout Tom, ça, oui, oui, oui. Tout Princesse ça, j'ai regardé. Sarah. Alors, pas Princesse
Juliette
Sarah,
Jotel.
Je l'insupportais. Ça m'insupportait. Oh. Elle se plaint tout le temps.
C'est la plus grande résilience de France.
Princesse Sarah, c'est vraiment un des seuls que je pouvais vraiment pas regarder.
Ouais, parce qu'à sa place, t'aurais tapé tout le monde.
Non, même pas. Mais j'avais déjà assez de problèmes dans ma petite vie. C'est faux. Non, mais je sais pas. J'accrochais vraiment pas celui-là. Les autres, je regardais de temps en temps. Je suivais pas... assidûment, mais je regardais un peu tout, mais Princesse Sarah, je pouvais pas. Je sais pas
moi,
pourquoi.
Princesse Sarah, je me disais, elle serait en banlieue parisienne, on aurait déjà brûlé l'école et les gens dedans depuis longtemps.
Ah ouais.
Vraiment.
Ah non, elle a vraiment
misère,
pas,
la pauvre. Mais évidemment, j'en passe, les Sailor Moon, les Nicky Larson, les Kenneth Survivants, tout ça. Est-ce que t'as retenu de cette période-là, parce qu'il y a eu les rediffs pour toi, du coup, un dessin animé, donc un animé, parce que dessin animé, c'était pour nous, animé, c'est vraiment le nom de l'animation japonaise. Est-ce qu'il y a un animé number one pour toi?
Pour moi, le number one, pour moi, c'est Pokémon. C'est mon plus
c'est
vieux souvenir. Je me rappelle de l'épisode 1 de la saison 1.
Oh.
Quand il choisit Pikachu, je me rappelle très très bien de cet épisode. J'ai vraiment grandi avec Pokémon. Après, tout le reste est venu, mais je regardais un peu par période en fonction de ce qui passait à la télé quand je rentrais de l'école. Mais Pokémon, même les rediffs, je les regardais. Bon, après, je n'ai pas tout vu, parce qu'il y a vraiment un million d'épisodes.
Je serais le meilleur dresseur.
Mais me lance pas Mais évidemment, ouais. Pokémon, pour moi, c'était vraiment, vraiment la base. Vraiment le feu.
Eh ben, faut savoir qu'à Japan Expo, la génération Pokémon, parce que quand tu regardes les reportages
oui,
TF1...
Oui, je parle des premières générations.
Il te limite à ça, alors qu'en fait, les gens viennent se déguiser en personnages de jeux vidéo et de divers animés, mangas, même des fois des mangas papier.
Ouais,
qui sont
des
pas
jeux vidéo,
animés,
etc.
Exactement. C'est 250 000 visiteurs par an.
Ouais.
C'est ouf. Bon, c'est sur trois jours, c'est une dinguerie. Évidemment, la structure du combat, de l'honneur, les samouraïs, le karaté, l'aïkido, le judo. Un mot là-dessus? Est-ce que les samouraïs, ça t'évoque quelque chose, du coup ?
Moi, les samouraïs, ça me... Il y a toute cette période féodale, tout ce mythe. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Je vois vraiment l'homme grand avec son katana à la ceinture, les cheveux attachés, majestueux, mystérieux, qui rôde dans la nuit.
Et surtout le seppuku, c'est-à-dire dès qu'il y a un crime d'honneur, je me rentre un sabre dans le bide
c'est
et
ça.
Comme quoi, ils ont l'honneur très prononcé, ces gens-là.
C'est peut-être un peu trop.
Un peu trop à mon goût, peut-être. Quand même, mais c'est pas mal. Évidemment, il faut savoir qu'autre chose qui nous lie avec le Japon, dans les années 80, le Japon domine le marché mondial de la moto avec le Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki. Ces marques deviennent cultes en France, en particulier auprès des jeunes avec des modèles comme, je ne les connais pas, on va voir si tu les connais, la Kawasaki Z750 ou GPZ900R, rendue célèbre dans Top Gun.
Ouais. Ouais.
Un mot sur
moi, c'est la Z750, c'est la moto qui m'a donné envie de passer le permis moto.
Mais non.
Je te jure. Je l'ai vue une fois dans la rue, j'étais en mode waouh, mais c'est trop beau, c'est trop stylé. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la moto. Après, bon, il y a eu d'autres modèles qui m'ont beaucoup plu. Mais c'est, la Z750, c'est la première moto où je me suis dit waouh, si j'en veux une.
On a la moto de sport polyvalente, la célèbre Honda CBR 600F. Un avis ?
J'allais dire c'est la mienne, mais non, c'est à la... t'as dit la F, moi j'ai la R.
Bah, c'est normal, parce que là on parle des années 80, un truc mythique, mais t'as une Honda.
Moi j'ai une Honda 650R.
Moi c'est rigolo, parce que c'est en regardant des Grands Prix de moto et des animés, je me suis rendu compte que les Japonais, ils touchaient leur bien en moto en fait.
Ah ouais, carrément, ouais.
C'est vraiment très très fort, pour le coup. Donc la moto japonaise est perçue comme accessible, moins chère du coup, performante, fiable. À l'opposé des modèles européens plus chers. En 2022, près de 60% du marché français de la moto est resté dominé par les marques japonaises.
Ouais, oui.
Dont
c'est
toi.
Vraiment, ouais, complètement. Moi, j'ai toujours eu du japonais. J'ai commencé chez Suzuki. Je suis passée chez Honda. mais parce que c'est des motos, bon, déjà esthétiquement qui me plaisent, mais c'est surtout, c'est hyper fiable. C'est vraiment quand on voit les marques européennes, Ducati, surtout, voilà ce que j'allais dire, Aprilia, surtout les italiennes qui sont des engins magnifiques, etc. Mais c'est connu pour pas être fiable.
Ouais, voilà.
C'est vraiment, il faut prendre un abonnement au garage. Alors de moins en moins parce qu'ils s'améliorent et heureusement. Mais il y avait une période où t'achetais ça, tu savais que c'était un gouffre financier.
Ouais, alors que japonais, sûr.
Ouais.
Alors aussi, bien sûr, les voitures japonaises, je suis obligé de les citer, Toyota, Nissan, Mazda, Honda, qui sont aussi...
Suzuki aussi, qui fait des motos et voitures.
C'est vrai, j'avoue. La Mitsubishi, la Subaru Impreza WRX, parce qu'il faut savoir...
J'en ai conduit une, c'est incroyable,
mais non.
Je te jure.
Mon cousin, c'est mythique en rallye.
Ouais, mon cousin en avait une, et c'est incroyable à conduire.
Excellent, je n'aurais pas voulu être sur siège passager, tu vois. Mythique en rallye, il faut évidemment dire que ce type de voiture bon marché est bonne pour le tuning et sont aussi des figures de proue pour des jeux comme Gran Turismo, Need for Speed, je parle aux gamers bien sûr, Need for Speed, on commence toujours avec une petite Mazda, une petite Honda, une petite Nissan, un petit truc, tu vois, et après on le pipe. Donc la fiabilité japonaise est souvent classée en tête des sondages. Pour ce qui est des voitures. En 2023, Toyota reste la marque étrangère la plus vendue en France avec plus de 135 000 véhicules écoulés. Et Nissan est toujours dans le top 10, mais eux, c'est parce qu'ils sont en partenariat avec Renault, c'est un peu différent, je pense. Donc pas mal. L'électronique japonais. Alors, je ne sais pas ce que tu as connu, toi, mais je tiens quand même à dire que Sony a inventé le baladeur Walkman avec les petites mousses en 1979, avec les cassettes, et ça révolutionne tout.
Ça a tout changé.
Tu peux te balader, écouter de la musique. Il y avait une pub où
tu
c'était...
Tu pouvais même acheter, bon, c'était au marché, mais des mousses de toutes les couleurs.
Oui, de toutes les couleurs, tu pouvais les mettre. Oh, je me rappelle, avec le casque là en métal là, qui t'accrochait les cheveux, là, et tu te faisais pincer. Ouais. Et j'adorais la pub parce que c'était un afro-américain qui est dans les rues de, je crois, Brooklyn. Il est en train de faire du roller, tu sais, vraiment années 80.
Ah, oui.
Il danse, et il a son Walkman et il danse avec ses rollers.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est mythique, ça, c'est fou. Évidemment, la PlayStation, et oui, Sony, c'est PlayStation aussi, depuis 1994, qui domine les consoles avec Nintendo, autre grand géant du jeu vidéo, Mario Yoshi. Faut pas oublier Toshiba, qui a fait les premiers ordinateurs portables compacts, qui étaient dans le téléviseur. Panasonic et JVC, c'est les magnétoscopes.
Ouais.
Donc c'est les premiers lecteurs.
J'avais un JVC, moi.
Et surtout, Canon, on n'oublie pas, parce qu'il y a les caméras caméscopes, et ça, c'est un délire.
Ah oui, ça, c'était pareil. Ils ont révolutionné le marché à l'époque. C'était... T'en voyais partout.
Tout le temps, les caméscopes.
Et tu partais en vacances.
JVC, Canon.
Ouais, tu voyais que ça.
Ça, c'était dingue de l'année 90.
Toutes les familles en avaient au moins un. Enfin... Toutes les familles, quasiment. Bon,
quasiment toutes les familles qui pouvaient se le permettre. Sinon, tu avais un oncle qu'on avait un, tu lui raquettais.
Oui, voilà, exactement.
La famille au
sens
large.
Mais il y en avait un dans toutes les familles.
Voilà, cousin ou oncle, tu trouvais un moyen. Évidemment, le Japon est associé à la miniaturisation, l'innovation, la qualité sonore et visuelle. On parle évidemment des téléviseurs, etc. On peut rappeler quand même que Nintendo a réussi à créer la Game Boy en 1989, qui a été une révolution, la première console portable. Tu peux te déplacer avec et tout, c'était une folie. Les marques japonaises dans la vie quotidienne française, vous avez Uniqlo. Et oui, le prêt-à-porter Uniqlo depuis 2007. Ouais. J'aime beaucoup, je suis client. Je suis très fan d'Uniqlo, pour de vrai. Vous avez aussi, et là c'est plus pour toi, Shiseido, qui est l'un des plus anciens groupes cosmétiques du monde présent depuis les années 80. Je n'ai vu que des pubs qu'il y a genre 2-3 ans.
Ah ouais?
Et je ne savais même pas que
je connais depuis très longtemps. J'ai acheté pas mal de leurs produits, j'aime beaucoup. Je connais depuis des années. Ouais.
C'est bien?
Ouais, c'est des très bons. Enfin, moi, j'aime beaucoup leurs produits. Après, moi, je change tout le temps. J'avoue, je suis fidèle dans plein de trucs, mais pas en cosmétique.
Il va me falloir du fond de teint pour le bronzage raté. Évidemment, pour le sport, on a évidemment Asics, très connu. La scène de Bruce Lee qui a des Asics jaunes. Maintenant, je comprends pourquoi.
Parce que c'est
asiatique. Et du coup, la dédicace...
C'est un placement de produit.
C'est ça. Et donc, dédicace de Uma Thurman dans le Quentin Tarantino Kill Bill, où elle est habillée comme Bruce Lee avec
des Asics
jaunes. Mizuno, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui est pareil, sponsorise du volet, du judo. Muji, le design épuré japonais. Moi, je croyais que c'était de l'appropriation culturelle. C'est Muji, M-U-J-I. T'as des enseignes comme ça, ils vendent des meubles et tout, des petits
trucs.
Moi, je croyais que c'était une marque européenne qui s'était
appropriée. Je sais
pas du tout. Ils existent depuis des années. Et bien sûr, Rakuten, qui est le sponsor du FC Barcelone 2017-2022, mais qui est présent en France depuis le rachat de Prince Minister en 2010. Donc pareil, la vente en ligne, très très gros concurrent pour le marché d'occasion, mais aussi les professionnels peuvent vendre dessus, si je dis pas de bêtises.
Il me semble que oui.
En 2022, le Japon est le deuxième fournisseur de biens culturels étrangers en France derrière les États-Unis.
Ouais.
On est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga du monde. Il y a les Japonais, il y a nous.
Ouais.
Voilà.
Oui, non, ouais, mais depuis des années, c'est comme ça. Hein. C'est
ouais, vraiment ouais, depuis la France, les années 90.
Il y a vraiment une histoire d'amour entre la France et le Japon, mais des deux côtés.
Ouais.
On adore la culture de là-bas et eux, ils adorent notre culture. C'est vraiment une histoire d'amour.
Ouais, ouais, clairement. Vraiment, on nous aime à Aligre FM. Moi, j'aime beaucoup Aligre FM. Ouais. Aligre FM, ça me paraît.
Mais ouais, il y a vraiment une histoire d'amour entre nos deux pays, même l'Asie en règle générale.
Oui, clairement. Ils ont un très beau fantasme sur Paris, la culture. Ils adorent la cuisine française. Oui. Ils mettent souvent des noms, évidemment avec des fautes d'orthographe, mais des noms français pour leur boutique et tout.
Ouais.
Et pareil, pour ce qui est des plats emblématiques, les sushis, par exemple, près de 48,3% des Français identifient le plat, c'est le plat japonais. En gros, pour nous, Français, on pense qu'ils mangent que des sushis.
Oui.
Évidemment, il y a les ramen, etc., etc.
Oui, ils ont une culture gastronomique immense.
Ouais, faite à base de poisson, ils ont les plats.
C'est pas que... Bon, en même temps, ils sont entourés d'eau. Ouais. Mais faut pas... Ouais, non, faut pas se dire que c'est que du riz et du poisson. Ils ont beaucoup de choses.
Donc là, on arrive déjà à la conclusion. J'ai presque envie de dire, faudrait qu'on crée une émission pop culture, ça irait plus vite.
Ouais.
Parce que là, on a fait le tour un petit peu comme ça pour dire, comme tu l'as dit, c'est une histoire d'amour entre le Japon et la France. Il n'y a rien à dire d'autre. C'est vraiment très, très bien. Chirac aussi a beaucoup, de 95 à 2007, fait de la diplomatie avec le Japon très souvent. Il était très fan de sumo. Véridique, je te jure, c'est vrai.
Ouais, en même temps, c'est intriguant comme discipline.
Ah, très noble discipline, mais vénère, hein, parce qu'ils se mettent vraiment des baffes pour se pousser du rond.
Ah
le but, c'est
semblant,
que vous avez deux adversaires qui se poussent uniquement avec les mains et qui doivent se pousser par la force autour d'un rond, et c'est vraiment, vraiment très physique. Du coup, merci à Aligre FM comme d'habitude. J'ai envie de dire, pour le compte Instagram, nous, c'est @championdelémission sur Instagram. La Fédération Française de Judo, vous pouvez la trouver sur @francejudo.
Tout simplement.
Vous pouvez suivre aussi sur @clarisse_agbeninou le compte du portrait de la magnifique championne de la semaine. Clarisse, on t'adore. La PETA, évidemment. @PETA. C'est pour les animaux, c'est gratuit. Et bien sûr, sur Facebook, si vous aimez les quiz, vous tapez quiz de foot. C'est tenu par un ami qui a des cheveux, c'est plutôt sympathique. J'ai envie de dire. Alors, c'est bien passé ?
Oui, c'est bien passé. Mais j'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais noté.
Vas-y.
Mais non, c'était dans le débat, mais. C'était sur justement le lien qui est entre les deux pays, enfin même pas seulement le Japon, il y a la Corée aussi.
On n'a pas
parlé de la musique,
la K-pop
et la J-pop. J-pop,
bien vu,
qui est quand même extrêmement influent en France, même ailleurs, parce que les BTS, qui sont le groupe ils ont fait des featuring avec des grandes stars américaines, par exemple.
Tout à fait.
Enfin, c'est vraiment ça a une grosse place.
C'est des millions et des millions de ventes.
Ouais.
Et surtout là où je te rejoins sur la musique, qui est hyper intéressant, c'est que t'as aussi le fait que là, on l'a entendu sur la musique d'animé, mais dans les années 80, tout ce qui est funk, tout ce qui est rock, rien à voir.
Ouais.
Un jour, je te ferai écouter, et je vous invite à écouter le générique des Chevaliers du Zodiac de Bernard Minet, et écoutez Pegasus Fantasy, qui est le générique japonais. Rien à voir.
Rien à voir.
Niveau rock, niveau soul, funk, ils sont très très forts. La bande originale de l'animé Cobra, pour les plus anciens, vous pouvez l'écouter aussi. La bande originale est folle. C'est vraiment.
Ah, mais les bandes originales des animés en japonais, souvent, c'est vraiment un autre niveau.
C'est le feu.
Ça n'a rien à voir. Ouais.
C'est vraiment très 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 bien pour le coup. Et je suis d'accord avec toi, oui, il y a aussi la musique, il y a aussi les films, on n'en a pas trop parlé, mais en cinéma, entre Miyazaki qui fait.
Les studios Ghibli, etc.
Voilà, qui est une référence mondiale.
Même les K-dramas, bon, c'est coréen, mais les K-dramas qui. Enfin, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a pas que ça sur Netflix.
Sur Netflix,
il y en a beaucoup, de plus en plus, ouais. Ça,
surtout scénaristiquement pour la Corée du Sud, puisqu'on en parle, on fait une parenthèse pour eux. Scénaristiquement, la plupart de leurs thrillers, donc leurs films policiers, c'est une dinguerie. Hein.
Ah ouais, ils ont un sens du suspense et du plot twist qui est incroyable.
Voilà.
Ouais, vraiment, ils sont très forts.
Je
très,
vous invite
forts.
À regarder une série qui s'appelle Bad, Good et Assassin. Il y a un spin-off, c'est un épisode, trois retournements de situation par épisode.
stylé.
C'est vraiment très 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 bien.
Ouais, non, ils sont très très forts. Même pour les films un peu plus girly, romantiques, ils ont, ils arrivent à faire quelque chose qui est très beau, mais sans être gnangnan.
C'est ça.
C'est... Non, 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 ils sont vraiment très forts. En cinéma, ils sont vraiment très, très forts.
Non, non, ils sont de plus en plus puissants. Et du coup, on arrive, il nous reste quelques secondes avant d'arriver à 19h57. Le mot de la fin.
Écoute, je vais regarder ta série.
Voilà, je te donnerai le nom tout à l'heure, sans problème.
Ouais.
Et je vous dis, domo arigato gozaimasu, qui veut dire merci beaucoup.
Oui, ça je savais.
Que la force soit avec vous, vive la France. Et puis...
Vive le Japon aussi.
Oui, bah oui, quand même, c'est bien.
Quand même,
c'est
mieux, parce que c'est un peu le...
c'est bon, c'est
un peu l'émission. Bon. Et à bientôt.
À bientôt, générique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chaotique, t'as failli partir. Thank you.